BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
C'est l'émission qui fait bourgeonner vos placements, même en cette fin janvier. Oui, on vous offre un coup d'avance sur vos investissements, sur les meilleures offres qui se présentent à vous, peut-être surtout les meilleures idées concrètes de placement grâce à nos experts et à leur analyse des marchés du contexte global. Bienvenue à tous donc pendant 3 heures des idées de placement au rythme des marchés. Les marchés qui aujourd'hui reculent légèrement, le CAC 40, alors qu'on entame une semaine peut-être décisive, sans doute l'une des plus décisives de ce début d'année en tout cas. 3 cols hors catégorie à franchir cette semaine. Les banques centrales, la Fed et la BCE, la Banque d'Angleterre aussi, d'une part, ça c'est le premier col. Le deuxième col, ce sont les publications, notamment celles des GAFAM. 4 GAFAM vont publier cette semaine. Et puis un troisième col, vendredi, le rapport sur l'emploi américain. Et cerise sur le gâteau, pendant ce temps, les marchés chinois réouvrent après une semaine de fermeture liée au fait du Nouvel An. C'est la cerise, le litchi sur le gâteau. En tout cas, cette semaine sera extrêmement chargée, intéressante, instructive et peut-être décisive. On va en parler bien sûr avec nos experts. Le mois de janvier s'est bien passé, on le rappelle, le CAC 40 gagne toujours plus de 9% depuis le 1er de janvier, malgré sa petite baisse du jour. Un mois de janvier donc de bon augure. 90% du temps où le S&P 500 termine le mois de janvier en positif, on a droit à une année elle aussi positive avec une performance moyenne de 20%. Voilà, donc ce mois de janvier positif aussi pour le S&P et peut-être prometteur aussi pour l'ensemble de l'année. On verra, on en parlera avec nos experts. On parlera bien sûr des titres à surveiller et puis bien sûr toutes vos thématiques d'investissement, quelles qu'elles soient, les idées de diversification. On parlera des cryptos, notamment tout à l'heure, notre club BFM Crypto à partir de 16h35. Vous allez voir que l'écosystème américain des cryptos est en ébullition. On sera en direct depuis San Francisco à 16h35 avec Cyril Paglino, l'un des investisseurs français dans la crypto avec Shift Capital. Et il nous expliquera d'ailleurs, Cyril, à quel point ChatGPT, cette intelligence artificielle qui pointe le bout de son nez dans l'univers du grand public, ChatGPT est en train aussi de transformer les investissements dans l'univers du Web3, ou en tout cas est en train de transformer peut-être même la promesse du Web3. On va en parler avec lui, il sera avec nous à 16h35, donc en direct. Vous le voyez, des thématiques très variées, on n'oublie pas l'immobilier, bien sûr, le private equity aussi, peut-être une solution pour préparer votre future retraite. On est en pleine réforme des retraites et on regardera tout à l'heure à 15h50 si le private equity est présent dans les solutions de placement retraite, notamment dans le plan d'épargne retraite. Ce sera donc tout à l'heure avec les experts de France Invest qui nous accompagneront dans 3 gros quarts d'heure. On est à vos côtés, on joue dans votre camp jusqu'à 18h donc, et tout de suite Raphaël nous rejoint. Raphaël Couder pour parcourir le reste de l'actualité économique du jour.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, la réforme des retraites qui arrive à l'Assemblée nationale. Le texte est débattu depuis ce matin par les députés de la Commission des affaires sociales. Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain, Elisabeth Borne affiche, elle, sa fermeté. L'âge de départ n'est plus négociable, a affirmé la Première ministre. Accord conclu entre Renault et Nissan sur l'avenir de l'Alliance. Le constructeur français va réduire sa participation dans le groupe japonais à 15% contre 43%. Aujourd'hui, les deux constructeurs négocient depuis plusieurs mois pour revoir le périmètre de leur union vieille de 20 ans. Nissan va de son côté devenir un actionnaire stratégique d'Ampère, le futur pôle électrique de Renault. En Allemagne, l'économie a calé en fin d'année dernière. Le PIB a chuté de 0,2% au quatrième trimestre, plombé par la crise énergétique et par l'inflation. Sur l'ensemble de l'année, la croissance allemande reste tout de même en hausse de 1,8%. Et puis par ailleurs, un autre indicateur en Europe, en Espagne, l'inflation rebondit très légèrement en janvier après 5 mois consécutifs de baisse. La hausse des prix est finalement repartie à la hausse à 5,8%, un chiffre encore très loin du pic et du record de 10,8% atteint en juillet dernier. Dans l'aérien, Ryanair profite du rebond de la demande. La compagnie low cost annonce un bénéfice de 211 millions d'euros sur les 3 derniers mois de l'année dernière. Il y a un an, le groupe avait essuyé une perte de 100 millions d'euros. Il constate au contraire sur le dernier trimestre un trafic et des tarifs solides, notamment pendant les vacances de Noël. Et puis Philips va supprimer 6000 emplois supplémentaires dans le monde. Un nouveau plan de licenciement qui s'ajoute à celui déjà annoncé en octobre. 4000 suppressions d'emplois avaient alors été annoncées. Le groupe néerlandais est toujours plombé par le rappel de ses appareils respiratoires défectueux. Rappel qui ont fait chuter sa valeur boursière de 70%.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Raphaël. Toute cette actualité, les marchés la traduisent en dynamique. On va rejoindre dans un instant, vous l'apercevez dans le mur d'images de BFM Business si vous nous suivez sur l'application BFM Business ou en télévision, Bertrand Lamiel. Bonjour Bertrand, on vous aperçoit, on vous rejoint dans un instant pour mesurer votre point de vue, vos convictions sur les marchés pour la suite, nous apporter pourquoi pas aussi des idées d'investissement. Et puis Aude aussi avec nous, Aude Kersulek aujourd'hui avec nous depuis la Tour Euronext. Bonjour Aude, les marchés européens, on va prendre leur pouls grâce à vous.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Jusqu'à la clôture, ils sont en petite baisse cet après-midi Aude.
Oui, c'est du rouge, hein, quelques heures après l'entame de cette grosse semaine qui vient avec les résultats d'entreprises, notamment des GAFA, vous l'avez dit, mais il y a aussi ces grosses réunions de banque centrale et puis l'emploi américain en fin de semaine. On a quand même tout ça accumulé, c'est pas souvent que ça arrive, des sensations fortes à venir. Alors en attendant, on temporise un peu, on essaie de commencer la semaine doucement, mais en perdant un peu de terrain, moins 0,38% sur le CAC 40 à 7069 points, et on devrait aussi perdre du terrain à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, à peu près d'ailleurs ce qu'on avait gagné en fin de semaine dernière, puisqu'on a des futures qui nous indiquent une baisse de 0,5% sur le Dow ou le S&P, un petit peu plus sur le Nasdaq qui pourrait perdre 1%. Il faut dire qu'on a une petite tension sur les taux obligataires quand même depuis ce début de semaine. L'euro aussi qui remonte en anticipation des hausses de taux qu'on devrait avoir, et plus forte pour la BCE que pour la Fed. On a le pétrole aussi, quelques prises de bénéfices puisqu'on perd actuellement quelques dollars, 84 dollars pour le Brent. Hein, voilà pour les autres marchés. Mais à l'intérieur de l'indice parisien, eh bien, on a Renault qui perd le plus de terrain. Renault, moins 3,7%, 36,76 €. Alors c'est dans l'actu des entreprises, évidemment, il y a ce communiqué qui est sorti ce matin qui vient un peu sceller l'accord, les fuites qu'on avait eues vraiment ces derniers jours sur l'accord entre les deux constructeurs sur l'avenir de l'Alliance, les 15% de participation croisée. Et puis Nissan qui devrait participer à l'entité électrique de Renault Ampère, mais quand même dans le communiqué, on remarque que le conditionnel est toujours présent. Donc ça n'est pas négocié. En tout cas, tout ça a été très bien anticipé par les investisseurs. Voilà pourquoi aussi on perd du terrain. Quelques prises de bénéfices. Donc sur Renault à 36,75 €. Stellantis dans la foulée qui perd aussi 2%. Et puis Total Energy dans le sillage du reflux du brut qui perd 1,3%. Et puis en tête du CAC 40, du défensif. Thales, Pernod ou Vivendi ou encore Danone. En ce début de semaine, on est plutôt frileux sur le risque.
Bertrand Lamiel avec nous, qui pour en part. Donc, comme promis, bonjour Bertrand, ravi de vous retrouver. Aude nous le disait, Renault, aujourd'hui lanterne rouge, moins 3,8%. Après donc ses premiers détails sur l'avenir de l'alliance avec Nissan, Renault qui va reculer au capital de Nissan, ramener sa participation de 43% à 15%. Et en échange, Nissan investirait dans Ampère, mais on ne sait pas dans quelle ampleur en l'occurrence. Cette baisse de Renault, est-ce qu'elle vous semble sévère aujourd'hui Bertrand ?
Bon, globalement, le marché est en train de vendre la nouvelle. On voyait à peu près les contours de l'accord qui était en train de se dessiner. Donc là, voilà, il y a des prises de bénéfices. C'est un titre qui a bien performé depuis le début de l'année. Donc non, pour moi, ça me paraît pas. Ça ne remet pas en cause la bonne tendance et le bon comportement qu'on voit sur le titre Renault, qui est historiquement très peu cher. Donc déjà de ce point de vue-là. Et puis la sortie de la participation de Nissan, donc qui va être bloquée dans une holding à part. Ça met aussi en exergue le fait que voilà, dans la participation de Renault, il y a une part de cash. Et quand on regarde du coup la capitalisation moins cette part cash, donc qui est censée valoriser l'activité de Renault en tant que telle, clairement, déjà, c'est pas cher, mais là, ça l'est encore moins. Donc je pense que c'est pas terminé. Et si on cherche un dossier value, bah, là, on en a un sous la main et je pense que ça peut continuer à aller un peu plus haut. Alors, on a calé sur les 38 € qui est une résistance intermédiaire, mais bon, une fois que les 38 seront dépassés, il y a encore du chemin sur Renault en termes de valorisation. On peut aller bien plus haut.
Bon, un titre qui semble encore, pourquoi pas, vous attirer ou en tout cas présenter un certain potentiel. On attend bien sûr encore un peu plus de détails sur l'avenir et notamment de la participation de Nissan au projet Ampère Renault et les véhicules électriques. Quelle sera l'ampleur de la participation de Nissan dans ce projet? Ça reste une vraie question. Bertrand, beaucoup de publications à venir cette semaine. Alors, quelques-unes en Europe, mais surtout aux États-Unis. Alors là, vraiment, voilà. Déjà près d'un tiers du S&P a publié. On va atteindre d'ici la fin de la semaine quasiment la moitié du S&P qui aura d'ici la fin de la semaine publié, et notamment toutes les GAFAM. Quelle entreprise, quelle société, quelle publication faudra-t-il particulièrement regarder d'après vous?
Alors aux États-Unis, oui, cette semaine c'est chargé. On a 105 sociétés du S&P 500 qui publient. En Europe, il y en a deux qui nous intéressent, avec des morphotypes, on va dire, un petit peu différents. On a Publicis, donc dans la publicité, donc clairement porté par un momentum. Les analystes sont en train de réviser à la hausse sur la valeur, mais globalement le secteur, quand on va regarder l'Omnicom, les WPP et autres, ils sont dans cette même tendance, donc des titres qui sont plutôt bien orientés. Un peu contre-intuitif au moment où on a la récession, où on peut se dire que tiens, les annonceurs vont plutôt réduire leur budget. Mais en fait, il faut juste ne pas oublier justement que Publicis, ce n'est pas que de la publicité, mais c'est d'autres métiers, notamment la capacité à aider les clients à naviguer dans toutes les données qu'ils peuvent collecter sur les sites internet ou autres, avec Sapient et Epsilon. Et donc, on voit que ces sociétés-là, à l'intérieur, ont une croissance qui est quasiment double de celle de l'activité classique de Publicis. Donc, logiquement, ça devrait bien sortir, ça nous intéresse. Et puis, l'autre, c'est Novo Nordisk, donc leader sur le... Donc une société pharmaceutique, leader sur le segment du diabète et de l'obésité. On attend une croissance du chiffre d'affaires de plus de 25%, donc c'est juste énorme. Et à l'intérieur de la division diabète et obésité, on va regarder justement la partie obésité, qui est celle qui monte en puissance, qui est appelée à être multipliée par 8 de 2019 à 2024. Attention, là pour le coup, on est sur un dossier qui est cher, on est sur un PER de 35 fois. Maintenant, on avait déjà l'an dernier un PER de 30, ce qui ne l'a pas empêché de gagner 45%. Donc c'est cher, il ne faut pas décevoir, mais ça n'empêche pas de monter forcément.
Merci beaucoup. Bertrand Lamiel, en direct avec nous depuis les bureaux de Ports-en-Part. Et cette séance de légère baisse donc pour le CAC 40, moins 0,38%. On vous rejoint à nouveau au Aude Kersulec pour nous en direct tout au long de l'après-midi sur BFM Business. Encore d'autres résultats à suivre cette semaine. À l'instant, Bertrand citait quelques entreprises à ne pas rater à ses yeux. Est-ce qu'on peut citer d'autres valeurs qui sans doute animeront cette nouvelle semaine européenne?
Oui, eh bien, pour avoir un beau mouvement à la hausse, direction la bourse d'Amsterdam, où Philips a dévoilé des résultats. Alors pourtant, des résultats peu glorieux, puisque la publication fait état d'une perte de 1,6 milliard d'euros sur l'année, et encore une perte importante au quatrième trimestre, avec une année marquée par le rappel d'appareils respiratoires, donc difficile pour Philips, qui s'est spécialisé maintenant sur la santé. Et le management a décidé d'un remède radical pour compenser cette perte, une coupe dans les emplois, 6000 suppressions à venir d'ici à 2025. Et en tout cas, en bourse, ça réagit vivement à la hausse, puisque Philips prend 5,4% à 16,40 € pour un indice d'Amsterdam qui est pourtant bien à la baisse aujourd'hui, qui perd plus de 1%. Donc un titre qui se démarque. Et puis, en revanche, à la bourse de Dublin, Ryanair plonge de 3%. Alors après, pourtant, avoir annoncé un très beau bénéfice pour le quatrième trimestre, des très belles perspectives avec une demande qu'il estime vraiment être revenue à la normale pour les vacances de Pâques et les vacances d'été. Ça calme un peu pour le titre, moins 3% pour un titre qui avait quand même monté de 20% depuis le début de l'année, donc Ryanair, la bourse de Dublin.
Merci Aude, vous nous accompagnez depuis la Tour Euronext tout au long de l'après-midi. À tout à l'heure, le CAC 40 est en légère baisse, on le disait, de 0,38%. Si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer. En scannant, en flashant ce QR code qui apparaît tout au long de l'après-midi, bien sûr, et tout à l'heure, après 18h, les questions que vous nous aurez envoyées, trouvons leurs réponses, les réponses de notre expert au micro d'Amaury de Tonquédec. Ce sera sur nos réseaux sociaux, nos différentes plateformes digitales, en direct. Donc, n'hésitez pas, en scannant ce QR code, à nous envoyer vos questions, ou encore, si vous nous suivez à la radio, par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr.
BFM Business. BFM Bourse. L'écho du monde en direct.
Et donc cette semaine sera importante pour les marchés. Florian Hielpeau nous accompagne. Bonjour Florian, en charge de la macroéconomie pour Lombard-Odier, IM, les banques centrales à suivre, l'emploi américain, le rapport sur l'emploi sera vendredi, puis bien sûr les publications des GAFAM. On va démarrer par les banques centrales et notamment la Fed. La Fed devrait mercredi soir, Florian, ralentir son rythme de hausse de taux à 25 points de base, alors que la BCE, elle devrait maintenir son rythme de hausse à 50. On a là un différentiel qui pourrait se manifester cette semaine entre le rythme de la Fed qui ralentirait contrairement à celui de la BCE. Est-ce que, d'après vous, donc, cette semaine sera la semaine où l'euro va accroître sa remontée, son rebond face au dollar et pourquoi pas franchir la barre d'1,10 $ vu que la BCE va poursuivre ses hausses de taux effrénées alors que la Fed, elle, va ralentir?
Bonjour. Alors, ça ne serait que la poursuite d'une tendance qui est déjà née, en fait, de ce différentiel de politique monétaire que vous mentionniez. C'est-à-dire que la Fed a déjà commencé à monter ses taux il y a quelque temps, une année maintenant. On commence à en voir les effets, c'est-à-dire une croissance économique qui est ralentie, visiblement ralentie, une inflation qui elle-même commence à ralentir, alors que du côté de la zone euro, on l'a bien vu ce matin, plus d'inflation en Espagne, les enquêtes de la Commission européenne qui montrent toujours une zone euro qui va encore assez bien. Il y a de quoi exciter un petit peu les banquiers centraux du côté de la BCE, et c'est ce qui devrait se passer cette semaine côté BCE. Tout ça, pour nous, nous amène à voir un euro qui continue à progresser, pour la raison même de ce différentiel de politique monétaire. On pourrait voir, et à la fin, disons, un euro qui retrouve les 1,18
complètement. Ah oui, carrément. On va suivre tout ça très très près. Et au-delà du choix de politique monétaire, de l'ampleur de la hausse des taux de la BCE cette semaine, qu'allez-vous regarder d'autre dans le discours, notamment de la présidente de la BCE, Christine Lagarde? Qu'est-ce qui sera important de surveiller, d'après vous, Florian?
Il y a quelque chose qu'on va regarder attentivement cette semaine, et c'est à la fois du côté de la BCE, mais aussi du côté de la Réserve fédérale américaine, c'est comment est-ce que ces banques centrales gèrent le fait que les opérateurs de marché, dans les marchés monétaires, aient commencé à anticiper une baisse des taux, disons à horizon fin 2023, début 2024, c'est-à-dire que les opérateurs de marché perçoivent leur politique monétaire comme temporaire. L'idée, c'est la conjoncture va ralentir, l'inflation va ralentir, et ensuite on va baisser les taux pour contrecarrer la baisse de la conjoncture. Ça, c'est quelque chose qui nous semble difficile à vivre pour une banque centrale. Il serait possible pour nous, en tout cas, que la BCE tente activement de combattre cette idée. C'est quelque chose qui pourrait se passer aux alentours des questions-réponses normalement.
Oui, par un discours peut-être encore très faucon, on va suivre ça. Et d'ailleurs, même question vis-à-vis de la Fed. La Fed devrait donc limiter sa hausse de taux, on verra, à 25 points de base. Pour autant, est-ce que l'idée d'un taux terminal qui atteindrait 5% voire plus, est-ce que cette idée est en train de perdre en probabilité ou au contraire de continuer de monter en probabilité même si le rythme de la hausse des taux lui ralentit?
Pour l'instant, c'est notre vue, c'est-à-dire on atteint 5 et on reste à 5. Encore une fois, on combat le fait qu'ensuite on ait une baisse en dessous de 5. Maintenant, il y a deux éléments qui pourraient amener, qui pourraient challenger ce scénario. Le premier, évidemment, c'est tous les plans de relance budgétaire, les fameux boucliers inflation qui sont en train d'être déployés. Chaque euro dépensé dans la demande deviendra de l'inflation macroéconomique à terme. La Banque centrale doit lutter contre ça, donc peut-être qu'il faut ajuster encore un petit peu le taux. Et l'autre élément, c'est la réouverture de la Chine. La combinaison des deux effets pourrait soutenir un peu plus la demande, et encore une fois, la demande deviendra de l'inflation et nécessitera un peu plus de hausse de taux. On ne parle pas de jumbo hike, mais on parle simplement de 25-50 points de base de plus au-dessus de 5%. C'est ça le risque.
Et vendredi, une fois que les banquiers centraux seront sortis du bois, auront annoncé leur choix de politique monétaire, vendredi, on suivra le rapport sur l'emploi américain. À quand un vrai ralentissement, d'après vous, du marché de l'emploi? Peut-être une remontée du chômage, comme le souhaiterait la Fed, ou en tout cas, à minima, une forte baisse des créations de postes. Quand est-ce que ce scénario, que cet objectif que suit la Fed, va commencer à se réaliser, d'après vous?
Historiquement, tard. C'est-à-dire que si on utilise 2007-2008 comme guide historique, au quatrième trimestre de 2007, donc début de la récession américaine, l'économie américaine continue de créer des emplois et le taux de chômage américain ne se met à monter qu'à partir de juin 2008. Donc encore deux trimestres sans réelle augmentation du taux de chômage américain. L'emploi, c'est le marché qui devrait flancher le dernier dans la lutte contre l'inflation au travers de la remontée des taux. L'histoire, en tout cas, nous enseigne que ça n'est pas nécessairement là que notre attention doit se porter. Cette semaine, nous avons également l'ISM. Et ça, c'est un bon indicateur avancé de l'économie américaine. C'est là que notre regard devra se porter à notre sens.
Florian Yelpo, merci Florian de nous avoir accompagné en direct en charge de la macroéconomie pour Lombard-Odier, IM, rapport sur l'emploi, ISM aussi à suivre donc cette semaine. Et puis la Fed, bien sûr, au milieu de tout cela. Les GAFAM, ce sera jeudi soir, hein, les GAFAM, Amazon, Apple, Alphabet publieront jeudi soir et dès mercredi soir, la veille, c'est la maison mère de Facebook, Meta, qui annoncera ses résultats également après la clôture de Wall Street. En attendant, Wall Street est attendu dans maintenant 11 minutes en baisse de 0,7%. Le S&P 500 futur est en repli de 0,7%. Nos marchés en Europe marquent une pause après encore de belles performances la semaine dernière. On est toujours à plus de 7000 points d'ailleurs, malgré la petite baisse du jour sur le CAC 40. Moins 0,38%, 7070 points.
BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO.
Et Paris sera toujours Paris, manifestement, aux yeux des investisseurs mondiaux, des investisseurs en tout cas les plus fortunés. Richard Zipine vient de nous rejoindre, directeur général de Barnes. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business. On va parler des villes les plus prisées par les plus fortunés. Vous venez de publier le GPH, le Global Property Handbook. De quoi s'agit-il ?
Alors le Barnes Global Property Handbook, c'est une étude que nous publions chaque année depuis 6 ans maintenant et qui nous permet d'analyser le comportement des ultra-riches, qu'on appelle les ultra-high net worth individuals, dans le monde, leur comportement, mode de vie et surtout dans un souci d'analyser leur acquisition immobilière. Voilà.
Les critères ?
Alors, il y a 3 critères qui reviennent régulièrement, qui sont, lorsqu'ils achètent un bien, il y a le critère émotion, qui correspond à ce dont ils rêvent. Il y a le critère praticité, qui correspond sans aucun doute aux endroits dont ils ont besoin, enfin, où ils ont besoin d'acheter pour vivre proche, sans doute, de leur entreprise. Et puis, il y a aussi les écoles pour leurs enfants, enfin, tout ce qui est pratique. Et puis, vous avez le 3e critère qui prend de l'importance, de plus en plus d'importance, qui est le critère de rentabilité financière, on va dire, rentabilité de leur acquisition.
Et donc, quand on regarde les résultats, qu'est-ce qui ressort ? Quelles grandes leçons peut-on tirer de ce baromètre que vous avez publié il y a quelques jours à peine ?
Il y a 2 points qui ressortent. D'abord, la baisse du nombre d'ultra-riches, qui baisse pour la première fois depuis des années, de 6% cette année. Alors, je pense que c'est un épiphénomène. Je pense que c'est lié à le domaine d'activité de l'IT qui a souffert et de la crise, évidemment, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et je suis certain que sur le fond, le nombre d'ultra-riches continuera à progresser, évidemment, dans les années qui viennent. Ça, c'est le premier point.
Évidemment, parce que les technologies, les nouvelles technologies, parce que la Chine, parce que les émergents.
Oui, puisqu'on voit ce gap très clair qui se crée entre les ultra-riches et le reste de la population. Leurs entreprises prennent la valeur et ça ne cesse de continuer. Le deuxième point qui est intéressant, qui est peut-être un peu plus qualitatif, c'est lorsqu'on reprend le critère de la finance et surtout de la rentabilité de leurs acquisitions, ça correspond à un état d'esprit qui évolue chez eux, qui est l'état d'esprit des entrepreneurs. C'est-à-dire que 75% des ultra-riches sont des entrepreneurs, sont des gens qui ont créé leur fortune sur leur génération, éventuellement sur une deuxième génération. Ils ont récupéré l'entreprise de leurs parents pour ensuite la faire fructifier. Donc ça, c'est important. 75% sont des entrepreneurs et ils réagissent et ils investissent comme des entrepreneurs. C'est-à-dire dans un souci de transmission, certainement, mais aussi et surtout dans un souci de rentabilité. Donc, il y a une génération, vous aviez de l'argent, vous achetiez une résidence secondaire ou plusieurs, vous l'utilisiez 1 mois par an, et c'était tout. Aujourd'hui, au moins, vous achetez un bien en résidence secondaire à la montagne ou à la mer, et vous le mettez, d'abord, vous y mettez des prestations haut de gamme, et vous le louez. Et vous le louez de façon intéressante, de telle sorte que ce soit rentable. En plus, ça vous permet de l'entretenir beaucoup mieux que si vous n'y alliez pas. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, vous avez ceux qui allient immobilier et passion. Il y en a qui aiment la chasse, il y en a qui aiment
le
vignoble, qui aiment le cheval, enfin, qui aiment plein de choses. Et qui,
c'est cliché, mais c'est vrai.
Voilà, c'est ça. Et qui, alors celui qui aime le vin, il va acheter un vignoble. Il va acheter un vignoble et puis il va le rentabiliser, il va le développer, il va racheter d'autres vignes aux alentours et puis il va créer un centre d'hospitality, un restaurant, il va accueillir, il va le rentabiliser. Celui qui aime la chasse, et chez Barnes, on vend 10 de chasses par an, très souvent, évidemment, en Sologne. Mais de temps en temps, vous avez un entrepreneur qui vient nous voir, qui dit, voilà, je viens de vendre mon entreprise quelques centaines de millions, je suis chasseur, je veux une chasse, et je vais la rentabiliser parce que je vais la louer. Et donc, exceptionnellement, l'année dernière, on a vendu une chasse en Namibie de quelques milliers d'hectares à un entrepreneur français qui, évidemment, a pris beaucoup de plaisir à l'acheter et surtout à la rentabiliser. Donc voilà, dans tous les domaines plus ou moins liés à l'immobilier, vous avez des passions qu'ils peuvent rentabiliser.
Et quand on mélange tout cela et qu'on regarde les résultats de cet observatoire, ce baromètre que vous proposez chaque année chez Barnes,
absolument.
Quelle ville du monde attire le plus les plus grandes fortunes ?
Alors, chaque année, on sort le palmarès des 50 villes qui attirent le plus. Et cette année, nous avons 5 villes qui ressortent. Donc, je vais commencer par la 5e pour terminer par la 1ère. Donc, la 5e, c'est Dubaï, qui est une ville, d'abord, qui était très ouverte pendant le Covid, donc qui a permis à beaucoup d'entrepreneurs de venir s'installer et évidemment à certains Russes. Et aujourd'hui, une grande majorité des habitants de Dubaï sont des entrepreneurs. Donc, c'est une ville qui a été dynamisée grâce à cela. Vous avez ensuite 3 villes américaines, New York, Miami et Austin, qui sont plutôt à connotation républicaine et qui ont été plus souples, on va dire, pendant le Covid. Et donc, ont permis aussi d'attirer beaucoup d'entrepreneurs qui voulaient continuer à travailler. Ah oui. Et ça les a dynamisés.
Alors, Miami, on est moyennement surpris parce qu'il y a le soleil, il y a tout le mythe autour de Miami. Austin, on peut être davantage surpris. Vous dites, c'est sans doute par la gestion des républicains pendant la crise Covid qui a renforcé l'attractivité économique de cette ville d'Austin parce qu'on pouvait continuer d'y entreprendre et d'y travailler.
Absolument. Entre autres, c'était tout à fait le facteur majeur. Et puis le numéro un, c'est Paris. Paris qui sort pour la première fois depuis des années en numéro un du palmarès des villes qui attire le plus d'ultra-riches. Les ultra-riches, je fais une petite parenthèse, ce sont ceux qui ont au moins 30 millions de dollars d'épargne. Donc c'est vraiment des ultra-riches. Donc Paris attire ces gens-là aujourd'hui. D'abord, ça a été la ville report du Brexit. Il y a 2 ans, on a eu beaucoup de dirigeants et financiers qui sont venus de Londres. Et puis aujourd'hui, Paris, c'est aussi une ville qui continue à charmer. Je fais un clin d'œil avec cette série Netflix et Emily in Paris. Et je pense que c'est symbolique, même si ça reste peu significatif. C'est quelque chose de symbolique. Et puis, c'est une ville qui est épouvantable pour les automobilistes depuis des années, mais qui finalement se rénove d'une façon assez intéressante, avec des petits villages, des petites vies de quartier qui émergent par-ci, par-là, et qui font de Paris, dans tous ses arrondissements, c'est une étude en plus qu'on a sortie en septembre 2022, dans tous ces arrondissements, on retrouve de l'immobilier de grande qualité.
Ah bon ?
Et les Parisiens et les étrangers s'y intéressent.
Mais attendez, ne me dites pas que les plus grandes fortunes s'intéressent à tous les arrondissements de Paris. Ils s'intéressent au centre. Ils ne vont pas aller dans le 13e arrondissement, dans le 20e. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que ce sont de nouvelles tendances quand même.
Globalement, les grosses fortunes s'intéressent toujours au 16e Nord, au 8e, au Marais. Beaucoup, beaucoup le Marais depuis un an et demi, à la rive gauche, etc. Mais nous avons une jeune clientèle de jeunes entrepreneurs high-tech qui s'intéressent au 11e, qui s'intéressent au 10e, qui sont des nouveaux arrondissements et qui attirent cette clientèle assez fortunée, malgré tout.
Quel est le palmarès, justement, des nationalités qui achètent le plus à Paris aujourd'hui dans cet univers des grandes fortunes ? Barnes, vous avez un spectre large de clients, justement, dans cet univers des plus grandes fortunes. Quelles sont les nationalités les plus représentées ?
Alors, je faisais cette analyse récemment. On a vraiment de toutes sortes de, enfin, toutes nationalités. Il n'y a pas une nationalité qui ressort en particulier, sinon que l'année dernière, vous avez évidemment beaucoup, beaucoup d'Américains qui sont venus en grande partie grâce à la parité euro-dollar qui leur était extrêmement favorable. Et donc, par exemple, un secteur très prisé par les étrangers qui est le 16e Nord, Trocadéro, la moitié, je dirais, des étrangers, c'était des Américains, un tiers, on va dire plutôt, pardon. Et un bon quart, c'était des Libanais. Et ensuite, vous avez quelques pays de l'Est qui, sans doute, souhaitaient sécuriser leurs investissements, des Géorgiens, des Kazakhs. Mm-hmm. Voilà. Puis après, vous avez toujours les Italiens, les Suisses, les Belges qui sont présents en permanence.
Et la Airbnbisation du monde, l'usage plutôt que la quête de propriété, c'est une tendance montante. Est-ce que ça transforme aussi la façon dont les grandes fortunes internationales considèrent l'immobilier parisien ?
En fait, je fais le rapprochement avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le client extrêmement riche va acquérir un bien de plusieurs millions d'euros à la montagne, par exemple, Megève, Gstaad, etc. Même si c'est un bien de 7-10 millions d'euros, voire plus, il va le louer. Il va le louer pas n'importe comment, il va le confier à une société, en l'occurrence Barnes, Seasonal Rentals, développe beaucoup son activité là-dessus, et va le louer avec des prestations, avec des services qui font que ce sera rentabilisé. Donc c'est une espèce de Airbnbisation de la clientèle très aisée.
Bon, et donc ils achètent la transformation de Paris menée par la municipalité actuelle. C'est ce que vous nous apprenez. Parce que les Parisiens ont tendance à penser que la qualité à Paris, la qualité de vie est en train de se dégrader, les embouteillages, les travaux partout, plus ou moins bien, les réalisations même végétales plus ou moins bien faites. Bon, d'un goût parfois contestable, mais voilà, les goûts, les couleurs. Vous dites que les grandes fortunes, ça ne les bloque pas du tout.
Pas du tout. Ils sont toujours là et de plus en plus. Après, on peut évidemment juger de la façon dont c'est fait. En tous les cas, l'objectif peut être positif.
Richard Zipine avec nous aujourd'hui, directeur général de Barnes. Merci beaucoup.
Merci.
D'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business et donc le Barnes Global Property Handbook qu'on peut bien sûr consulter. Toujours très, très intéressant. Bon retour dans un instant. Wall Street, New York, la séance du jour, ça va démarrer. On va entamer une nouvelle semaine boursière aux États-Unis, une semaine extrêmement importante. La plus décisive sans doute de ce début de l'année. Sabrina sera avec nous dans une poignée de secondes pour essayer d'anticiper les choses et cette semaine très intéressante qui nous attend. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
15h30 passé, direction New York pour l'ouverture des marchés américains. La cloche retentit, vous l'entendez, on rejoint sur place notre correspondante permanente Sabrina Quagliozzi. Bonjour Sabrina, on espère que vous avez fait plein d'énergie ce week-end.
Bonjour.
Parce que la semaine aux États-Unis s'annonce riche.
Oui, on va avoir besoin de cette énergie effectivement avec des marchés qui se préparent à une semaine extrêmement chargée et déjà qui quand même, rappelons-le aussi, c'est important, a bien résisté depuis le début de l'année dans ce contexte bien particulier. Si on regarde déjà la semaine dernière, on a quand même une hausse de 4,3% pour le Nasdaq, de 2,5% pour le S&P 500 et d'1,8% pour l'indice Dow Jones. Depuis le début de l'année, le Nasdaq est en tête avec une hausse de 11%, le S&P 500 de 6% et le Dow Jones un petit peu moins, de 2,5% des marchés qui ont digéré des résultats dans l'ensemble mitigés, des prévisions abaissées, des statistiques qui signalent un ralentissement de l'économie. Comment va se passer cette semaine? C'est la grande question, avec donc de grands rendez-vous. Bien sûr, la réunion de la réserve fédérale américaine demain et mercredi. Le marché attend une hausse de 25 points de base avec des prévisions très attendues. Bien sûr, comment se profile la politique monétaire de la réserve fédérale américaine dans ce contexte? Grande question. Le rendez-vous sera bien sûr suivi avec également beaucoup de résultats d'entreprise. 20% des sociétés du S&P 500 lève le voile cette semaine sur leurs résultats trimestriels avec de grands rendez-vous, notamment dans la tech. Si on regarde l'agenda, vous avez mardi General Motors, McDonald's ou encore UPS, Snap et AMD. Mercredi, ce sera notamment autour de Peloton ou encore de Meta. Et jeudi, journée très importante avec Apple, Alphabet ou encore le groupe Ford et Starbucks. Bref, beaucoup de rendez-vous. Et la réserve fédérale américaine est donc un marché qui démarre cette semaine très importante et très chargée sur une note légèrement négative, moins 0,24% pour l'indice Dow Jones ce matin. On est à 33 897 points. Le S&P 500 de son côté perd 0,6%, 4 046 points. Le Nasdaq, moins 1% tout juste à 11 504 points, Guillaume.
Et un secteur que vous avez repéré à suivre particulièrement aujourd'hui, le secteur de la consommation, Sabrina?
Oui. Alors, c'est assez calme aujourd'hui. On démarre en douceur cette semaine qui sera très, très chargée. Alors, il y a quelques valeurs, effectivement, qui se distinguent aujourd'hui dans le sillage, notamment de commentaires d'analystes. C'est le cas pour le secteur du retail avec Goldman Sachs qui a publié une note positive sur Macy's. Goldman Sachs estime que Macy's est mieux positionné que les autres retailers avec un joli potentiel de progression à la clé. On garde un œil donc bien sûr sur Macy's ce matin qui en profite, plus 0,4% à l'ouverture. En revanche, Goldman Sachs s'est montré beaucoup moins optimiste sur Kohl's avec une recommandation à la vente. Rien que ça, Kohl's qui du coup perd un peu plus de 3% ce matin à l'ouverture. Et puis on garde un œil également toujours du côté des commentaires d'analyse sur Colgate Palmolive avec Morgan Stanley qui passe de neutre à surpondéré. La forte baisse du titre récemment est une bonne opportunité d'entrée sur ce titre, donc estime Morgan Stanley. Colgate qui ouvre du coup en hausse d'1,4%, on est à $72.60. Enfin, hors recommandation d'analyste, vous avez Ford qui doit publier ses résultats trimestriels cette semaine, donc, mais qui a annoncé aujourd'hui qu'il allait réduire le prix de ces véhicules électriques dans le sillage, bien sûr, des annonces similaires de Tesla. Ford perd 1,8%, juste au-dessus des $13, dans un marché qui recule légèrement. Donc ce matin, Guillaume, avec un Dow Jones qui perd 0,25% actuellement, le S&P 500 0,6%, le Nasdaq moins 1,14%. Du côté de l'obligataire, on est sur une petite tension, 3,55 sur le 10 ans américain. Le pétrole en repli d'1,8%. 0,8% pratiquement à $78.28. On se retrouve dans une heure, Guillaume, pour voir comment se déroule cette séance américaine.
Effectivement. À tout à l'heure, Sabrina, vous nous accompagnez tout au long de cette séance américaine. Le CAC 40 est toujours, après cette ouverture, dans le rouge, légère baisse, moins 0,38. Du côté des rendez-vous à ne pas rater ici en Europe, encore quelques publications, bien sûr aussi cette semaine, avant que ça n'accélère vraiment la semaine prochaine. Et puis la Banque Centrale Européenne, bien évidemment, ce sera jeudi. Si vous souhaitez investir des idées de pépites pour vos portefeuilles, pour, pourquoi pas, compléter votre portefeuille boursier, ce sera dans 10 grosses minutes. Valeur ajoutée, une idée de valeur en plus. Marc Giraud pour HMG sera avec nous. Il nous parlera notamment de Tarkett. Rendez-vous donc aux alentours de 15h47 dans, 10 grosses minutes. D'ici là, on va tout de suite prendre le pouls aussi des marchés asiatiques, puisque ça y est, les Chinois sortent des fêtes du Nouvel An. La semaine dernière, les marchés chinois étaient fermés. Ils ont rouvert tout à l'heure. On va rejoindre juste à côté, à Hong Kong, tout de suite, notre expert Hervé Liévor en direct.
BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché.
Oui, parce que si l'on attend la BCE et la Fed au tournant cette semaine, leurs décisions de politique monétaire, eux, la Fed et la BCE, elles, les deux banques centrales, vont regarder de près les perspectives macroéconomiques et l'impact de la réouverture de l'économie chinoise. Hervé Liévor, donc avec nous en direct depuis Hong Kong, économiste de marché du groupe AIA. Bonjour, bonsoir Hervé. Il est chez vous 22h37, ici 15h37 en France. La réouverture des marchés chinois, alors c'était même jeudi dernier pour ce qui concerne la bourse de Hong Kong. Vous êtes sur place, on va en profiter, Hervé. Quel bilan de cette nouvelle, enfin de cette semaine du nouvel an pour le coup en Chine en termes d'activité, peut-être l'ambiance, l'humeur après des semaines et des mois contraints par la crise Covid. Quelle ambiance, qu'est-ce que vous avez ressenti là-bas au cœur de Hong Kong et aussi proche de ce marché chinois gigantesque en termes d'ambiance et d'activité, Hervé?
Je dirais que dans l'ensemble, le sentiment qui domine, c'est celui du soulagement. Après deux années particulièrement dures d'application du zéro Covid, le fait de réouvrir les frontières, notamment celles qui séparent Hong Kong et la Chine, a apporté une bouffée d'oxygène à l'économie hongkongaise. Alors certes, on est toujours sur des niveaux d'activité qui sont inférieurs à ce qu'on avait avant le début de la crise du Covid, mais en très nette progression par rapport à ce qu'on avait connu il y a à peu près 12 mois. Bon, il faut bien reconnaître que l'effet de base joue à plein, étant donné que le Nouvel An chinois de 2022 avait été marqué par un coup d'arrêt brutal à cause de l'arrivée d'Omicron sur le territoire. Maintenant, si je regarde ce qui s'est passé en Chine pendant cette semaine du Nouvel An lunaire, les données qui sont actuellement disponibles montrent très clairement qu'il y a une amélioration. Encore une fois, quand on fait la comparaison avec le nouvel an lunaire de l'année dernière, on est sur des taux de progression à deux chiffres, donc qui tournent très fréquemment, quel que soit l'indicateur, aux alentours de 10 à 15%. Mais encore une fois, comme pour Hong Kong, on reste tout de même un tantinet en dessous de ce qui prévalait avant la survenue de Covid. Donc il y a encore de la marge pour continuer de converger vers des niveaux plus cohérents avec les moyennes de long terme. Et je pense que pas mal d'investisseurs vont continuer à parier sur la continuation de ce processus de rattrapage après, encore une fois, 2 à 3 années de vaches maigres.
Sur les contaminations, le rythme des nouvelles contaminations avec cette réouverture et donc ce virus qui se propage évidemment à vitesse grand V, que se dit-il? Est-ce qu'on se dit qu'avec le nouvel an, les fêtes du nouvel an désormais passées, on est au pic, on a franchi le pic, on est sur le point de le franchir? Comment est-ce qu'on voit les choses? Je vous pose la question parce que ici, un certain nombre d'économistes nous disent attention, le premier semestre en termes d'activité pourrait s'avérer décevant en Chine du fait de ces nouvelles contaminations.
Alors, le sentiment ici, c'est que très clairement, à la fin de l'année dernière, donc au moment où le gouvernement chinois a levé l'essentiel des mesures de restriction, l'épidémie a connu une progression absolument fantastique. Quand je suis en contact avec mes collègues qui sont basés à Shanghai, il y a eu des semaines au mois de décembre où les effectifs tournaient aux alentours de 10%. Donc vraiment, un mouvement très très fort qui a eu lieu à la fin de l'année dernière. Ce qui marque en fait un certain espoir pour le mois de janvier, étant donné que l'essentiel des contaminations a eu lieu plus tôt en décembre, on est actuellement sur une phase plutôt baissière. Ça s'est plutôt bien passé pendant le nouvel an lunaire, du moins si on en croit les statistiques officielles et des témoignages qu'on peut récolter ici ou là. Et en ce qui concerne l'impact que les différentes vagues pourront avoir au fil du temps, l'exemple qu'on a connu en Occident est tout à fait révélateur. Il y aura des vagues successives qui, au cours de l'année en Chine qui vont plus ou moins perturber l'activité économique. Est-ce que c'est suffisant pour faire dérailler l'économie au cours du premier semestre? J'en doute fortement, étant donné que ce que j'appelle l'effet élastique est maintenant avec nous. Toute cette consommation qui a été réfrénée est maintenant possible. Et donc, cela devrait se traduire, au moins sur quelques trimestres, par une très forte progression de la consommation, ce qui soutiendra l'économie chinoise pendant un certain temps. Et maintenant, ceci étant posé, il faut aussi pas perdre de vue que c'est un feu de paille. Cette consommation qui a été restreinte pour des raisons politico-administratives se déchaîne sur un laps de temps très court et après un certain temps, eh bien, on retourne sur des tendances qui sont beaucoup plus en ligne avec les fondamentaux de l'économie. Et là, l'horizon de prévision pour 2024 est assez nettement plus défavorable que celui de 2023. En 2023, le consensus est actuellement en train de tourner quelque part aux alentours de 5,5 à 6 % de croissance, voire même un tout petit peu au-dessus, mais c'est lié précisément aux effets de base. Et quand on passera en 2024, le profil de croissance devra très nettement commencer à décélérer. Et donc, on retournera très vraisemblablement sur les taux de croissance aux alentours de 4,5 à 5 %.
Parce que la Chine est toujours dans cette phase de ralentissement structurel hein, par rapport aux dernières décennies. Bien sûr, la démographie aussi. Et cette année, les Indiens devraient passer devant les Chinois en nombre, en population. L'Inde devrait devenir cette année le pays le plus peuplé du monde devant la Chine. Est-ce que cette réouverture économique s'accompagne et devrait s'accompagner à vos yeux et encore une fois, on rappelle, Hervé, vous nous parlez en direct depuis Hong Kong. Là, il est chez vous 22h43. Est-ce qu'elle devrait s'accompagner d'une réouverture aussi politique?
J'en doute fortement. Dans la mesure où, si le gouvernement chinois a décidé d'assouplir sa position en matière de contrôle de la maladie, c'est parce que les effets négatifs sur le plan économique de cette politique commençaient à devenir insupportables pour un certain nombre d'échelons de gouvernements provinciaux sur l'ensemble du territoire. En clair, on a commencé à observer des défauts de paiement de sociétés spécialisées dans la production d'équipements liés à la lutte contre le Covid, parce que les factures que leur devaient ces administrations provinciales n'étaient pas réglées. Et tout simplement parce que les caisses dans certaines administrations commencent à être assez vides. Et donc, il est assez urgent de recommencer à faire tourner la machine économique et à voir les revenus fiscaux progresser pour assurer un fonctionnement assez efficace de l'économie. Est-ce que cela veut dire qu'on va vers davantage d'assouplissement politique? Il n'y a absolument aucune raison qu'on aille dans ce sens. Et je dirais que la permanence des objectifs de long terme déterminés par le gouvernement font que l'ouverture politique, à l'heure actuelle, reste vraiment un scénario très minoritaire. On est toujours dans une situation où le gouvernement cherche à orienter l'économie et le gouvernement ne pourra pas le faire. Au moins le pense-t-il, sans avoir une prise assez forte sur l'ensemble de la nation chinoise. Donc, une ouverture politique semble à ce stade très improbable.
Et une ouverture géopolitique, en l'occurrence, on a vu la Chine annoncer récemment l'allègement partiel des mesures d'interdiction sur l'importation de charbon australien, par exemple. On a vu cette rencontre aussi à Davos entre Janet Yellen et le vice-premier ministre chinois. Est-ce que d'un point de vue beaucoup plus global, la Chine, à vos yeux, pourrait éventuellement aussi, pour booster sa croissance et l'attractivité de ses marchés aussi, tenter de porter au monde quelques signes d'ouverture malgré tout et sortir de cette conflictualité pas que verbale vis-à-vis des États-Unis?
Là encore, je dirais que on assiste à la démonstration du caractère extrêmement pragmatique des dirigeants de Pékin. Dans la mesure où la Chine est confrontée à des situations assez tendues sur le plan des matières premières énergétiques, cette réouverture vers l'Australie permet d'atteindre deux objectifs avec la même politique. Non seulement cela permet d'assouplir la relation avec l'Australie, soit dit en passant, le départ de Toni Morrison est aussi un facteur qui facilite ce changement d'attitude. Et dans le même temps, cela permet d'assurer un approvisionnement en énergie qui est très utile dans le contexte actuel pour la Chine. Et donc, est-ce qu'on peut étendre cette logique à d'autres acteurs des relations géopolitiques de la Chine? J'ai quelques doutes là-dessus, étant donné que les États-Unis et la Chine sont encore à l'heure actuelle sur un mode de concurrence pour le leadership mondial qui fait que, certes, il y a des domaines où la coopération est possible, mais un retour à la situation qui prévalait il y a une dizaine d'années semble, là encore, quelque chose de très improbable. Et il sera très intéressant de voir l'évolution de la relation entre les États-Unis et la Chine lorsque Taïwan tiendra ses élections générales, et aussi, si on en a confirmation de la date, de la visite de McCarthy, sur le leader républicain à la Chambre des représentants, à Taïwan au mois d'avril. Il faut s'attendre à ce moment-là à ce que les relations soient de nouveau extrêmement tendues.
Dernière question, Hervé. On le dit, hein, et vous le dites aussi, l'activité en Chine est en train de réaccélérer. On pourrait dépasser cette année les 5,5-6% de croissance, sans doute, avant d'atterrir un peu l'an prochain. Est-ce que vous pensez que cette soudaine réouverture va, du coup, refaire gonfler l'inflation mondiale avec cette demande chinoise qui va revenir d'un seul coup, là? Est-ce que la torture des taux, est-ce que cette inflation qui tente à ralentir pourrait repartir à la hausse du fait de la réouverture chinoise, d'après vous?
Là aussi, j'ai quelques doutes par rapport à la mécanique sous-jacente, parce qu'il ne suffit pas que l'économie chinoise reparte très fortement pour un certain laps de temps pour que les matières premières connaissent une explosion de prix particulièrement significative. Je rappellerai deux choses. La première, c'est que la demande chinoise en matières premières est essentiellement dirigée par la demande qui provient de la construction. En clair, quand vous construisez un immeuble, votre demande en à peu près n'importe quel métal industriel est extrêmement élevée. Et pour l'instant, on ne voit absolument rien venir. Les derniers chiffres relatifs au marché de l'immobilier sont particulièrement déprimés et on n'assiste pas vraiment à un rebond. Le deuxième point, c'est que certes, la Chine va connaître une accélération. Mais dans le même temps, le reste du monde va connaître une croissance très très faible. Si vous regardez le consensus pour les États-Unis, on est actuellement à 0% de croissance. Donc, d'un côté, oui, plus de demandes pour les matières premières, mais d'un autre côté, le reste du monde devrait largement amortir le choc créé par le redémarrage de la Chine.
Merci Hervé. Hervé Liévor en direct avec nous pour AIA, économiste de marché du groupe AIA depuis Hong Kong, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne fin de soirée sur place, Hervé. Et puis donc, on retiendra ce que vous nous disiez en début d'entretien. Véritablement une ambiance très porteuse en ce moment autour de la Chine. Et puis à Hong Kong aussi, où vous vous trouvez, avec ces fêtes du Nouvel An chinois, où véritablement les gens ont vécu une forme de soulagement collectif qui devrait aussi se traduire dans les chiffres d'activité à court terme et ces contaminations qui ont peut-être franchi leur pic. On verra si les choses viennent à se confirmer. Merci beaucoup Hervé d'avoir été en direct avec nous. Le CAC 40, il est 15h49, est en légère, très légère baisse, moins 0,15%. Wall Street aussi en petite baisse, moins 0,38% sur le S&P 500, avant la Fed et la BCE qui annonceront leurs décisions de politique monétaire en milieu de semaine, avant les GAFAM et beaucoup d'autres sociétés américaines comme par exemple Ford qui publieront aussi, Starbucks aussi publiera cette semaine, et puis en fin de semaine le rapport sur l'emploi américain. C'est l'une des semaines les plus décisives de ce début d'année que l'on va vivre ensemble dans les prochains jours.
BFM Business, BFM Bourse, valeur ajoutée.
Effectivement, une idée de valeur en plus si vous souhaitez diversifier vos portefeuilles. On essaie de vous être les plus utiles et pratiques possibles. Marc Giraud nous accompagne depuis HMG Finance. Bonjour Marc.
Bonjour Guillaume.
On est ravis de vous retrouver. Marc, vous êtes avec vos équipes à l'achat aujourd'hui sur le titre Tarkett. On peut peut-être démarrer en rappelant ce que fait Tarkett.
Oui, c'est une société finalement peu connue du grand public et pourtant Tarkett est le numéro un mondial du sol vinyle. C'est une activité qui représente environ la moitié de ses ventes totales. Chaque jour, tenez-vous bien, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtements de sol divers. C'est tout à fait exceptionnel. C'est un leader mondial dans son domaine. Ce que je trouve intéressant dans cette société, c'est c'est que notamment 80% des ventes sont destinées à la rénovation. On parlait tout à l'heure de la construction neuve en Chine. C'est une valeur qui est moins sensible que beaucoup d'autres valeurs à la construction neuve, puisque 80% des ventes vont à la rénovation. À l'intérieur des ventes, 70% sont à destination du commercial et 30% du résidentiel.
Alors Tarkett est coté en bourse, mais a quand même fait l'objet d'une OPA en 2021, Marc.
Oui, en effet, c'est assez rare qu'on recommande une valeur qui a fait l'objet d'une OPA relativement récemment. La famille qui en était déjà un actionnaire important s'est associée à des fonds d'investissement pour lancer une OPA en 2021 au prix de 20 euros tout rond. À la suite de cette opération, les principaux actionnaires ont, par des achats en bourse début 2020, complété leur position et ont dépassé le seuil de 90% de détention qui a réglementairement un intérêt certain. Depuis cette OPA, le cours a fortement baissé, ce qui nous semble aujourd'hui offrir un point d'entrée assez intéressant pour le moyen terme. Nous attribuons cette baisse à la forte réduction du flottant, qui d'ailleurs doit conduire ceux qui voudraient opérer sur le titre à le faire avec beaucoup de prudence et toujours à cours limité. J'insiste là-dessus. Nous parlons souvent de valeurs, certes peu connues, intéressantes à découvrir, mais qui demandent un certain doigté pour intervenir boursièrement, hein, comme vous le savez, Guillaume. Ce n'est de toute façon pas les résultats de l'entreprise qui ont justifié cette baisse assez importante depuis l'OPA, puisque depuis cette date, ils sont en sensible amélioration. Tarkett a réussi à faire passer des augmentations de prix face à l'inflation des matières premières et de l'énergie sans trop de difficultés. En 2021, le résultat net est redevenu positif et les résultats 2022 qui doivent être annoncés le 15 février, donc dans une quinzaine de jours, on nous indique déjà du côté de chez Tarkett que la marge brute devrait être en augmentation.
Le titre cote actuellement en direct 11,80 €. Quel est votre objectif de cours du coup ?
L'OPA avait eu lieu à 20 € fin 2020. Depuis cette date, les résultats s'améliorent. Donc nous espérons très fort un retour vers 20 €.
Objectif 20 € sur cette valeur Tarkett. Vous êtes positionné à l'achat, Marc Giraud, avec vos équipes chez HMG. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Marc. Bonne fin de journée. À très bientôt. Le CAC 40 est en repli toujours de 0,1%. Renault, lanterne rouge, moins 3,9%. Oh, c'est un titre qui reste très attractif et prometteur. C'est ce que nous disaient tout à l'heure les experts de Ports en Part Gestion, malgré cette baisse du jour qui ressemble surtout à des prises de bénéfices. Renault avait bien progressé depuis le début de l'année. Une baisse avec pour prétexte, sans doute, le détail du futur avec Nissan, puisque Renault va ramener sa participation dans Nissan de 43 à 15%. En échange, Nissan investirait dans Ampère, les véhicules électriques de Renault. Mais bon, voilà, ce titre Renault aujourd'hui subit ses prises de bénéfices, moins 3,9%. On a des cours du pétrole orienté à la baisse, Total Energy aussi, moins 1,7%. Puis à la hausse, les défensives, Danone, Pernod Ricard, et puis aussi quelques valeurs de croissance. Thales notamment gagne 1,8%.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et puisqu'on est en pleine réforme des retraites, en plein débat sur la meilleure façon de préparer sa retraite, on va parler du private equity. Est-ce que l'investissement dans des entreprises non cotées peut apporter une pierre à vos retraites ? Alexis Dupont vient de nous rejoindre, le directeur général de France Invest. Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Bon, est-ce que le PER, par exemple, le plan d'épargne retraite, permet d'investir en private equity ?
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de retraite en ce moment. En termes de préparation de retraite, au-delà de ce que peuvent faire les régimes de base, le PER est un excellent instrument parce qu'il est à la fois avec une vision de très long terme, avec assez peu de liquidité, donc ça permet d'investir dans des placements de très long terme. Donc de ce point de vue-là, c'est parfaitement adapté au capital investissement, au moins sur le plan théorique, puisque c'est vrai que ce qu'on observe, c'est qu'il y a assez peu de véhicules de capital investissement qui sont référencés en PER aujourd'hui, au moins pour la gestion libre, et puis pas du tout en termes de gestion pilotée, puisque le capital investissement n'est pas dans les grilles de gestion pilotée, ce qui est dommage. Il y a sûrement un certain nombre de choses à faire pour que ces instruments soient plus utilisés de ce point de vue-là.
Vous qui vous battez pour la démocratisation, au contraire, du private equity, vous devez être déçu qu'en effet, le PER, qui est très populaire, qui cartonne depuis sa création il y a 3 ans, n'inclut pas le private equity, parce que quoi, c'est trop risqué encore, c'est ça? Ça rapporte en moyenne plus de 10% annualisé, mais en face, le risque est trop élevé. Enfin, comment est-ce qu'on explique que le private equity soit encore absent de la gestion pilotée dans le PER?
Eh bien, je crois qu'il y a un vrai enjeu d'amélioration de ces dispositifs et qu'on va porter dans les mois qui viennent. Non, c'est vrai qu'en termes de rendement, le capital investissement aujourd'hui, c'est vraiment un placement qui est très performant, qui est stable dans le temps. Donc, il y a des statistiques qui montrent que sur 15 ans, c'est un placement qui est plus performant que les autres classes d'actifs, que ce soit la bourse, l'immobilier. Donc, c'est pas miraculeux. En réalité, c'est le produit d'un travail qu'on fait sur les entreprises qu'on accompagne. D'abord, on les sélectionne. On choisit des entreprises qui ont du potentiel et qui vont pouvoir bénéficier de notre accompagnement sur période longue. Je rappelle, c'est 5 à 7 ans en moyenne d'accompagnement. Donc, on sélectionne ces entreprises, on les coach, on les accompagne au quotidien pour les aider à créer de la valeur. Donc, on met des expertises à leur disposition, on les soutient vraiment et c'est comme ça qu'elles ont plus de chiffre d'affaires, plus de résultats, qu'elles grandissent. Et puis, l'avantage des véhicules de capital investissement, c'est qu'ils diversifient aussi les risques par rapport à de l'investissement direct qu'on pourrait faire dans une PME. Mais après, quoi qu'il arrive, il faut quand même de la diversification. La recommandation qu'on peut faire, c'est mélanger les millésimes, mélanger les sous-jacents, les différents types de segments qui existent. Il y a une vraie diversité dans le capital investissement.
Oui, parce que ce rendement important qui est constaté, il ne signifie pas qu'il y a une garantie au capital, et ce rendement, il est associé à un risque important, donc il faut bien sélectionner aussi les entreprises dans lesquelles on choisit d'investir, et vous, chez France Invest, vous tentez de jouer les amortisseurs de risque, en quelque sorte, en accompagnant les entreprises pour les aider à réussir. C'est ça l'idée.
C'est ça. On accompagne les entreprises pour les aider à réussir et on amortit les risques avec une vision de long terme. Je rappelle, on est vraiment des placements qui ont du temps. On donne du temps au temps pour aider les entreprises à réussir et on les aide à saisir les opportunités dans les périodes de croissance et aussi à saisir les opportunités dans les périodes où c'est plus difficile puisque dans la période actuelle, il y a malgré tout des opportunités à saisir.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. On est quand même en pleine phase de ralentissement économique. Pendant ce temps, les taux remontent, donc le coût de l'argent est de plus en plus élevé. Est-ce que du coup, le risque associé à un investissement en private equity est en train de remonter pour les investisseurs ?
Alors, la hausse des taux, c'est surtout un sujet pour les entreprises. Là, il y a un vrai changement de paradigme, donc il faut les accompagner. Nous, notre conviction, c'est que les défis à long terme des entreprises sur lesquels on est pertinent, c'est des défis qui se financent en fonds propres. Donc, on va garder toute notre pertinence pour aider les entreprises à se décarboner, à se digitaliser, à créer de la valeur en faisant ça. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on est pertinent. Mmh. Et à plus court terme, on va aussi aider les entreprises. Alors, on accompagne 9000 entreprises aujourd'hui, dont 7500 en France. Certaines sont exposées au prix de l'énergie, d'autres vont au contraire très bien. Ils vont pouvoir saisir des opportunités comme des build-up, voilà, des acquisitions d'entreprises à côté. Donc, il y a des opportunités à saisir. On est là pour les accompagner dans cet objectif-là.
Est-ce que la meilleure façon d'investir en private equity tout en limitant au maximum son risque, c'est pas de passer par ce que propose, je sais pas, la Banque publique d'investissement, par exemple, qui propose avec un 2-3 IM des fonds comme ça sur chacun exposé à des dizaines et des dizaines d'entreprises. Est-ce que c'est pas la meilleure façon de diluer son risque? Enfin, comment est-ce que vous regardez la Banque publique d'investissement? C'est un partenaire? C'est un concurrent? Que vous proposez, vous, chez France Invest? Comment est-ce que vous avancez avec eux?
Alors, la Banque publique d'investissement, outre le fait que c'est un adhérent de France Invest, c'est évidemment un partenaire, puisque je crois que par essence, la Banque publique d'investissement intervient dans toutes ses opérations aux côtés d'acteurs privés, mais interviennent en parallèle d'acteurs privés, hein, toujours en lien avec le secteur privé. Nous, on partage surtout beaucoup de valeurs avec la Banque publique d'investissement, que ce soit en termes de promotion de l'entrepreneuriat, d'une vision assez conquérante des entreprises. Et puis, vous l'avez dit, on partage aussi la vision qu'il est nécessaire de mieux démocratiser, de rendre plus accessible le capital investissement aux particuliers. Il y a eu un certain nombre de démarches qui ont été entreprises par BPI de ce point de vue-là avec succès. Maintenant, l'enjeu, c'est que ça puisse embrayer. Ça a déjà commencé, bien sûr, mais encore plus largement auprès de tous nos adhérents et que les Français puissent avoir accès à des placements performants et puis qui ont du sens, parce qu'investir dans des PME, ça a du sens.
Alexis Dupont, directeur général de France Invest, donc sur le private equity, de beaux rendements historiquement. Après, encore une fois, il faut bien diversifier, hein, bien évidemment, son investissement. Il n'y a aucune garantie au capital, on le rappelle quand même. Merci Alexis d'être passé nous voir.
Merci Guillaume.
Bon retour. Le CAC 40 en direct, il est en train de stagner. On est en toute petite baisse. On va rejoindre dans un instant pour en parler. Aude Kersulec depuis la Tour Euronext. Ce sera juste après la pause. On se retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.